En plein cœur de l'Antiquité, imagine un homme couvert de bleu, qui est jeté dans une prison vraiment sordide.
Ouais, le genre d'endroit où tu veux pas passer la nuit, quoi.
C'est ça. Le gars encaisse les coups en silence, le dos en sang, sans la moindre plainte. Et en fait, c'est seulement le lendemain matin qu'il révèle un secret qui va, mais littéralement, terrifier ses bourreaux.
Parce qu'il possède le passeport le plus puissant du monde connu à l'époque.
Exactement. Cet homme, bah, c'est l'apôtre Paul. Et la ville, c'est Philippe. Et l'anecdote est stupéfiante parce que Paul avait ce fameux privilège de la citoyenneté romaine. Il aurait très bien pu brandir ce statut pour éviter la souffrance.
Mais il a choisi de le cacher.
Voilà. Pour donner l'exemple, en fait, d'une toute autre allégeance. Et c'est de ça qu'on va parler. Aujourd'hui, on explore justement cette idée de loyauté radicale. Notre analyse se base sur une conférence hyper fascinante du docteur Matthew S. Herman.
Qui est vraiment un spécialiste de la question, ouais.
Tout à fait. Il décortique un texte antique ultra précis, l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Et l'objectif de notre exploration en profondeur, c'est de creuser un peu tout ça pour extraire les pépites de cette analyse. On va voir comment le concept de citoyenneté céleste venait complètement pirater la société du 1er siècle.
Et surtout comment ces idées résonnent encore avec une force de dingue aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent.
Grave. Surtout que ces concepts sont complètement contre-intuitifs. Moi, j'adore quand l'histoire vient bousculer nos certitudes modernes.
Et dès les premières lignes de la conférence, l'auteur met l'accent sur un point qu'il faut vraiment capter. Ce texte, c'est pas juste un petit recueil de bons conseils moraux du genre « sois gentil avec ton voisin ».
Non, c'est pas du développement personnel antique.
Mais pas du tout. C'est un appel à un changement de paradigme total. L'auteur antique, il demande pas de faire des petits ajustements cosmétiques au quotidien. Il exige une réévaluation complète de l'identité des lecteurs.
D'accord, donc on est sur du lourd.
Ouais. Mais pour vraiment saisir la puissance de ces quelques versets, la source insiste sur un truc, c'est qu'il faut d'abord comprendre l'architecture même de la lettre. On peut pas juste isoler le verset 27 et faire genre « on a tout compris ».
Et justement, décortiquons tout ça, parce que l'analyse parle d'une structure en chiasme. Et pour être honnête, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit « mais pourquoi s'embêter avec un truc aussi alambiqué ?»
C'est clair que le mot fait un peu peur.
Bah oui, un chiasme, en gros, c'est une structure littéraire symétrique. C'est comme un miroir. On a une idée A, une idée B, puis le centre absolu qu'on appelle C, et ensuite on repart en arrière avec l'idée B, puis l'idée A.
Et l'argument principal se trouve au milieu, au point C.
Exactement. Mais moi, je me dis, pourquoi ne pas simplement écrire ces idées de manière linéaire? Tu vois, ça ressemble presque à un exercice de style intellectuel, un peu inutile pour une lettre censée encourager des gens qui souffrent.
Ça, c'est vraiment une réaction hyper moderne.
Ah ouais?
Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on lit de manière linéaire. On veut des puces, des titres en gras, des listes. Mais dans l'Antiquité, les textes étaient quasiment toujours lus à voix haute devant une assemblée.
Ah, donc c'est pensé pour l'oreille.
Exactement. Le chiasme, c'est pas un caprice de style pour faire joli. C'est un piège auditif. Ça permet de retenir l'attention des gens et de les guider vers le cœur du message.
D'accord.
Le corps de cette lettre suit ce chiasme, de A à A', donc du chapitre 1, verset 27, au chapitre 4, verset 3. Et au centre absolu, ce fameux point C, se trouve un poème incroyable, l'hymne à Christ.
Ok, je vois l'idée.
Pour bien visualiser le truc, l'analyse propose une image super. Faut s'imaginer une lourde pierre jetée dans une marmite d'eau calme.
Ouais, ça fait des vagues.
Voilà. L'impact de la pierre, c'est ce centre. C'est l'hymne. C'est là que se déroule l'action principale. Mais cet impact crée des ondes puissantes qui se propagent dans tout le reste de l'eau, donc dans toute la lettre.
Et le texte qu'on regarde aujourd'hui, j'imagine qu'il se prend ses ondes en plein visage.
Il est frappé de plein fouet, ouais.
D'accord. L'analogie de la pierre dans l'eau clarifie vraiment le concept. Si le centre est la source de ses ondes, bah, le tout premier ordre qui en découle, il apparaît juste dans notre passage. C'est littéralement le premier impératif de toute la lettre.
Qui est de vivre comme des citoyens.
C'est ça. Le mot grec, c'est « politaïesté ». Et pour mesurer le poids énorme de ce mot-là, il faut se remettre dans le contexte de Philippe.
Qui n'était pas n'importe quelle ville.
Absolument pas, c'était pas une petite bourgade perdue. C'était une colonie romaine, une sorte de mini-Rome délocalisée. À l'époque, faut savoir que la citoyenneté romaine, c'était pas un droit universel du tout.
Ah non, c'était super rare.
Hyper rare et extrêmement précieux. Ça offrait des immunités légales, des allègements fiscaux, un statut social intouchable, bref, c'était le ticket d'or.
Le graal absolu pour les habitants.
Ouais, c'est un peu comme si, aujourd'hui, on exigeait d'un expat qui possède un passeport diplomatique américain ultra sécurisé et qui vit dans un pays en pleine guerre, de se plier strictement aux lois d'un tout autre royaume complètement invisible.
C'est une super image.
Mais il y a quand même une question qui me taraude avec ça. pourquoi Paul utilise un vocabulaire politique si chargé, genre polythéisté? S'il parle de foi, de croyance, pourquoi ne pas employer un langage purement spirituel, ou religieux, ou mystique?
Ben, ce qui est fascinant ici, c'est que c'est précisément parce que l'enjeu n'est pas que spirituel au sens, on va dire, au sens un peu éthéré du terme.
Comment ça?
Ce choix linguistique, il est d'une audace folle. En utilisant le langage de la politique civique dans une colonie ultra-romaine, le texte dit, en substance, « Je sais à quel point le passeport romain est précieux ici pour vous, mais la véritable citoyenneté, et donc la seule véritable allégeance, elle se trouve dans un tout autre royaume. »
Oh waouh! Donc c'est hyper subversif.
Complètement. Ça établit direct que cette identité céleste, elle surpasse, elle transcende les privilèges les plus élevés de l'Empire.
C'est une vraie provocation.
Ouais, c'est pas juste une petite croyance intime que tu gardes pour toi le dimanche matin. C'est une déclaration politique et sociale qui redéfinit totalement la manière dont une personne interagit avec la cité terrestre.
Mais attends, si toute l'identité est ancrée dans ce royaume céleste invisible, comment ça se traduit concrètement un mardi matin, quand les autorités romaines frappent à ta porte ou exigent que tu participes à un culte impérial? Il doit bien y avoir un code de conduite, non?
Bien sûr. Et c'est là que la source explique que l'évangile agit en fait comme la constitution de ce royaume céleste.
Alors là, j'avoue que je bloque un peu sur le mot.
Pourquoi?
Une constitution, ça implique des tribunaux, des lois super rigides, des articles stricts. Moi, je pensais que le message central de ces textes, ça reposait surtout sur l'idée de libération, de grâce, pas sur un code pénal étouffant. Comment on concilie les deux, du coup?
C'est une super remarque, c'est une nuance super importante à apporter. Quand le conférencier parle de constitution, il parle pas d'une liste de restrictions légales qui t'empêchent de respirer.
Okay.
Faut revenir à ce que fait une vraie constitution à la base. Elle fait deux choses. Elle déclare ce qui a été accompli pour fonder la nation et elle établit le cadre de vie de ses citoyens.
Donc c'est les fondations.
Exactement. C'est à la fois une bonne nouvelle, genre le royaume est fondé, et en même temps, c'est le critère de mesure absolu du comportement.
Le standard à suivre, quoi.
Voilà. La difficulté majeure, et c'est vraiment le nœud du problème soulevé par l'analyse, c'est que ces citoyens célestes, ils vivent physiquement dans un monde déchu.
Oui, la réalité terrestre les rattrape.
Ils sont encerclés de lois romaines, de dirigeants super imparfaits, tout en devant calquer leur vie en priorité absolue sur cette constitution d'un autre monde. C'est une tension de chaque instant.
Et le gros défi là-dedans, c'est de maintenir cette intégrité, même quand personne ne regarde.
Ah oui. Le fameux test.
La conférence utilise d'ailleurs une analogie qui parlera à tout le monde. C'est l'analogie de la limite de vitesse.
On l'a tous vécu, celle-là.
Mais grave. Imagine, tu roules tranquillement sur une petite route, limitée à 90, mais toi, t'es à 110. Tu te dis, c'est bon, je maîtrise, la route est belle.
Et là, le drame.
Et soudain, ton cerveau repère le petit break blanc de la police, caché derrière un pont. Et instinctivement, bam, c'est le coup de frein brutal.
Le réflexe pavlovien.
C'est ça. Le comportement change à la milliseconde, parce que l'autorité est devenue visible. C'est la dynamique classique. Un comportement modèle, mais uniquement sous la contrainte. C'est un peu comme, tu sais, des élèves dissipés qui redeviennent super sages jusqu'en le prof entre dans la classe.
C'est tout à fait ça.
Sauf que l'auteur de la lettre, Paul, il est en prison quand il écrit. Il sait très bien qu'il ne peut pas jouer les policiers de la route indéfiniment pour eux. Du coup, est-ce qu'il essaye simplement d'instaurer une sorte de peur de la sanction à distance? Genre, attention, je vous regarde depuis ma cellule.
Absolument pas, et c'est là tout le génie de ce texte. Le but, c'est surtout pas de créer une obéissance de façade dictée par la peur du gendarme.
Il cherche quoi alors?
Ce qui est recherché, c'est un basculement complet de la psychologie humaine. C'est passer de la contrainte externe à la motivation interne.
Ah, l'intériorisation.
Exactement. Si ton obéissance dépend que de la présence d'une autorité visible, elle est caduque dès que le flic tourne le dos. Mais si cette constitution céleste, elle est réellement intériorisée, si l'identité est forgée par cette citoyenneté, alors le comportement reste inchangé, même dans l'anonymat le plus total.
Parce que ça vient de l'intérieur.
Voilà, il s'agit plus de respecter des règles pour éviter une punition, il s'agit d'agir d'une certaine façon, parce que c'est ce que tu es fondamentalement.
D'accord, c'est un basculement psychologique hyper profond, mais bon, c'est bien beau d'avoir une constitution intériorisée de manière individuelle dans sa tête, mais en pratique, face à l'hostilité d'une société entière, la volonté seule d'un individu, ça suffit souvent pas.
C'est même quasiment impossible.
Et la source est très claire là-dessus. c'est mission impossible d'y arriver seul. Le texte utilise l'expression « tenir ferme dans un même esprit ».
Avec une majuscule à esprit, c'est important de le préciser.
Oui, l'analyse le souligne bien. Ça désigne le Saint-Esprit. C'est pas juste un vague sentiment de franche camaraderie entre potes. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est la métaphore employée par le conférencier. Il utilise l'image de la ligne offensive au football américain.
J'adore cette image.
Ouais, ces gabarits énormes de 130 kilos qui s'ancrent dans la pelouse avant le coup de sifflet.
Oui. Parce que la ligne offensive, c'est vraiment l'image fantastique de la cohésion. Ces joueurs, c'est pas des électrons libres. Leurs mouvements sont chorégraphiés au millimètre. Ils se lient les uns aux autres pour créer un mur impénétrable.
Pour protéger le quarterback, c'est ça, hein ?
Exactement. Et si un seul d'entre eux, juste un seul, décide soudainement de jouer au héros de manière individuelle pour faire une action d'éclat, bah, il crée une brèche fatale et toute la structure s'effondre.
L'interdépendance, c'est littéralement une question de survie.
C'est exactement ça.
Et franchement, ça vient fracasser le grand mythe occidental du loup solitaire, tu sais, l'individualiste endurci. Cette idée qu'on a tellement romancée dans nos films, genre on peut tout surmonter par la seule force de sa volonté.
Ouais, l'idée qu'il suffit d'être seul avec son bouquin sous un arbre.
C'est ça. Penser qu'on peut assumer cette citoyenneté radicale tout seul, bah c'est comme essayer de ramer seul dans un bateau d'aviron qui est conçu pour un équipage de 8 personnes.
Bonne chance.
Bah oui, on va s'épuiser en donnant tout ce qu'on a, et au final, la barque va juste tourner sur elle-même.
C'est une super métaphore. Et si on relie ça à la vue d'ensemble du contexte historique, faut pas oublier un détail crucial.
Lequel ?
C'est que c'est pas juste une petite balade de plaisance sur un lac tranquille, cette histoire de bateau. Il y a des navires de guerre romains tout autour qui essayent activement de couler la barque.
Ah oui, c'est un environnement hostile.
Complètement. L'équipage n'est pas là que pour avancer, il est là pour survivre aux attaques. La conférence cite d'ailleurs un truc super intéressant, un pasteur qui avait fait une série de sermons intitulée « Aide-moi à aller au ciel ».
Waouh, ça c'est de l'honnêteté brutale.
C'est un aveu d'impuissance individuelle totale. Bien sûr, l'auteur reconnaît que la communauté chrétienne, elle est imparfaite. Elle est désordonnée, chaotique, pleine de frictions.
C'est des humains, quoi.
Voilà. Mais cette promiscuité, elle est vitale, parce que c'est souvent un membre de l'équipage qui, en tirant un coup de rame à ta place quand t'en peux plus, bah, il te maintient à flot. Et surtout, c'est la proclamation de la vérité par les autres qui produit la foi quand on vacille.
Ces navires de guerre dont tu parlais tout à l'heure, ça représente l'opposition concrète. À l'époque, refuser de brûler juste une petite pincée d'encens pour l'empereur romain, c'était pas sans conséquence.
Ah non, c'était un suicide social.
Ça signifiait s'exclure du commerce local, subir des boycotts économiques et puis des pressions sociales monstrueuses de la part des voisins, de la famille même.
C'était une vraie persécution au quotidien.
Face à ça, le texte livre une consigne qui semble totalement contre-intuitive. Il dit « Ne soyez pas effrayés par vos adversaires ».
Facile à dire. Hein.
C'est ce que je me suis dit.
Mais le détail linguistique soulevé dans l'analyse, il m'a vraiment sidéré. Alors accroche-toi.
Le mot grec utilisé par Paul pour effrayer, c'est pas le terme classique pour dire avoir peur. C'est un mot super spécifique, un terme technique qui était employé dans la littérature antique. Tu sais pourquoi ?
Vas-y.
Pour décrire le comportement des chevaux de guerre.
Ah, ce qui est fascinant ici, c'est que ce mot décrit un cheval qui s'effarouche. Un animal immense qui cède à la panique en plein milieu du chaos d'une bataille.
Ouais, le sang lui monte à la tête.
Exactement. Un cheval paniqué, il oublie tout son entraînement. Il n'écoute plus les commandes de son cavalier, il se cabre, il rue dans tous les sens.
Et les conséquences, elles sont désastreuses. Un cheval de guerre qui panique, il devient totalement imprévisible. Non seulement il ne charge plus l'ennemi, mais surtout il piétine son propre camp.
Il devient le danger numéro un pour les siens.
Il devient sa propre menace et il détruit la fameuse ligne offensive de l'intérieur pour reprendre notre image de tout à l'heure.
C'est exactement ça.
Mais là où je trouve que le texte demande un peu plus d'explications, c'est sur la conclusion qu'il en tire. L'auteur affirme que le simple fait de rester calme face à l'opposition, ça devient le signe, la preuve de la destruction des adversaires.
Ouais, ça peut paraître étrange au premier abord.
Mais carrément, d'un point de vue stratégique, ça m'échappe un peu. Je veux dire, rester de marbre face à une armée qui te fonce dessus, ça fait pas reculer l'armée physiquement. Comment l'absence de panique, ça peut agir comme une preuve de défaite ennemie ?
En fait, pour capter ça, faut vraiment plonger dans la psychologie de l'oppression. Pose-toi la question, quelle est la devise, la monnaie d'échange de tout tyran ou de toute force d'oppression ?
La peur, j'imagine.
Exactement, c'est leur seule vraie monnaie. L'objectif de la menace, du boycott ou de la prison, c'est uniquement de générer de l'anxiété pour obtenir la soumission.
Ok, je vois où tu veux en venir.
Mais que se passe-t-il si la personne en face, l'opprimé, refuse d'utiliser cette monnaie? Si l'oppressé garde un calme absolu, le tyran se retrouve soudain face à sa propre impuissance. L'absence de peur, ça dévalorise totalement les armes de l'adversaire.
C'est comme s'il tirait à blanc, en fait.
Voilà, et d'un point de vue théologique, tel que c'est décrit dans la source, cette paix inébranlable, elle prouve à l'opposant que les croyants s'appuient sur une réalité suprême, donc l'esprit, qui est totalement hors de portée des menaces humaines.
Ils n'ont pas de prise dessus.
C'est ça. Le calme, c'est pas juste une technique de relaxation un peu zen, c'est une arme de perturbation massive qui annonce la banqueroute du pouvoir oppressif.
D'accord, l'idée est brillante, mais bon, cette théorie du calme olympien, elle se heurte quand même à un sacré mur de réalité quand l'intimidation franchit un cap, quand ça devient de la vraie douleur, physique ou émotionnelle.
Et c'est là qu'on arrive au point le plus difficile.
Ah oui. C'est là que l'analyse met en lumière la notion de loin la plus choquante de cet épître. Le texte affirme qu'il y a deux choses qui ont été, je cite, « gracieusement accordées », donc des cadeaux donnés aux croyants. Le premier cadeau, c'est la foi.
Bon, là-dessus, tout le monde est d'accord.
Le cadeau idéal. Super. Mais le deuxième cadeau mentionné dans le même souffle, c'est la souffrance.
Ouais, ça passe moins bien.
Et le conférencier utilise une analogie géniale, celle du matin de Noël. T'ouvres un paquet splendide, avec le papier brillant. C'est la foi. T'es super heureux. Et juste après, on te tend le paquet suivant. Tu l'ouvres et tu tombes sur le pire pull de Noël imaginable.
Le truc horrible tricoté par la grand-tante.
Le pull aux couleurs criardes dans une laine hyper rêche qui gratte atrocement. Tu le fixes et tu te demandes quelle erreur cosmique a bien pu se produire. Pourquoi la souffrance serait un cadeau? C'est la grande question.
L'étude apporte deux réponses. Elle dit que la souffrance force à se concentrer sur l'essentiel et qu'elle révèle nos véritables trésors. Il y a d'ailleurs cette mention hyper poignante d'une étude clinique sur des patients ayant reçu un diagnostic terminal.
Ah oui, cette étude est bouleversante.
Complètement. Les témoignages montrent que du jour au lendemain, avec la maladie, toutes les disputes mesquines du bureau ou les envies de s'acheter la dernière voiture, tout ça disparaît instantanément.
La perspective de la mort fait le tri.
C'est ça. Ça crée une concentration absolue sur l'amour, le pardon, le temps présent. Mais le côté un peu tragique de l'étude, c'est que si ces mêmes patients entrent en rémission complète, la vaste majorité finit par retomber super vite dans ses anciennes distractions superficielles.
La disparition de la crise entraîne la disparition de la clarté. Exactement. Cela dit, je me dois quand même d'appuyer là où ça fait mal.
Vas-y.
C'est très facile, tu vois, en lisant un vieux livre ou, pour nous, en enregistrant cette analyse bien au chaud, de philosopher et de dire « ouais, la souffrance est un cadeau ».
C'est sûr.
Mais honnêtement, n'est-ce pas terriblement insensible pour quelqu'un qui vit un drame indicible en ce moment? Est-ce qu'on ne flirte pas dangereusement avec une espèce de positivité toxique qui ordonnerait, en gros, de sourire sous la torture?
Ça soulève une question hyper importante. Et c'est un risque énorme. Mais l'auteur prend grand soin de ne pas tomber dans ce piège-là. Faut être très clair, pour ceux qui nous écoutent, la souffrance, ça reste de la souffrance.
Elle fait mal.
Elle fait super mal. Le texte antique, il appelle absolument pas au masochisme. Il n'y a aucune glorification de la douleur en elle-même. La positivité toxique, c'est nier la réalité de la blessure en disant « mais non, tout va bien, souris ». L'analyse fait pas du tout ça.
Elle reconnaît la tragédie.
Oui. La douleur, elle détruit, elle brise le cœur. En fait, ce qui est qualifié de cadeau dans la source, c'est pas le cancer, c'est pas la tragédie elle-même. C'est son effet secondaire inévitable, cette fameuse clarté chirurgicale.
Comme le montrait l'étude médicale.
Exactement. La douleur a cette capacité implacable d'écailler toutes les couches de superficialité et d'hypocrisie de nos vies. C'est ce nettoyage brutal de l'âme, cette reconnexion forcée avec ce qui a une valeur éternelle qui est considérée comme un don providentiel. C'est une grâce déguisée sous les traits du drame, en fait.
C'est super fort. Ce concept d'une clarté chirurgicale obtenue par la douleur, ça vient vraiment clôturer un parcours intellectuel d'une densité folle.
C'est clair qu'on a balayé pas mal de choses.
Si on résume un peu la trajectoire de l'onde de choc de ce fameux chiasme du début, on est face à un appel intransigeant. Il s'agit de se soumettre à la constitution d'un royaume invisible.
De refuser la facilité du loup solitaire pour s'encastrer dans la rudesse de la ligne de défense communautaire.
D'apprendre à regarder les oppressions en face sans paniquer comme un cheval effarouché. Et enfin, d'accepter cet effroyable cadeau de la clarté quand survient l'épreuve.
Et le défi, il est d'autant plus grand à notre époque. Si cette analyse du docteur Serment est si pertinente, c'est parce que le monde contemporain, bah, c'est une formidable machine à distraire.
Oh que oui, on est noyé.
La saturation de l'information en continu, l'anxiété chronique, les algorithmes qui sont littéralement conçus pour provoquer la panique et la division, tout ça brouille nos loyautés en permanence.
C'est vrai que le bruit de fond est assourdissant.
Du coup, comprendre les mécanismes de ces versets antiques, c'est trouver un antidote puissant. Ça pousse quiconque écoute à réévaluer ses priorités, à mesurer le besoin vital d'une communauté incarnée et à repenser l'utilité des bouleversements dans nos vies.
C'est exactement l'enjeu. Et tu sais, en repensant à cette fameuse étude sur les patients en rémission, il y a un détail qui continue de me trotter dans la tête.
Lequel ?
Cette incapacité chronique que l'humain possède à conserver la sagesse dès que l'orage s'éloigne. Dès que ça va mieux, hop, on oublie.
C'est le drame de la nature humaine.
Et ça soulève une réflexion finale qui a de quoi hanter les esprits bien après la fin de cette analyse. Si la souffrance détient véritablement ce pouvoir brut, d'éliminer instantanément les distractions pour révéler nos trésors les plus profonds.
Ouais.
Que se passerait-il si un groupe d'individus parvenait à cultiver chaque jour cette même clarté absolue, cette même urgence implacable, mais sans jamais avoir besoin d'attendre qu'une tragédie ou un drame vienne les y forcer ?
C'est le défi ultime, en fait.
Exactement. C'est la fin de notre analyse. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.